théâtre Livres et Amis du 26 mai 2004, invité Fred Belin à la technique, David et Odile, votre animatrice. Le Fred Belin va nous prouver une des facettes de son talent. Je lui fais un peu la brosse à enlure là, hein, avec la présentation du dernier recueil de nouvelles aux éditions de Midi, Strange Magic. Et tout d'abord, pour nous mettre dans l'ambiance, eh bien, un mot sur la musique que vous avez choisie.
Alors, la musique, bonjour d'abord. La musique que j'ai choisie, c'est la musique non utilisée du rideau déchiré d'Hitchcock, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été pris en fait pour la musique du film, tout ce qui a été enregistré mais non utilisé pour le film, quoi. Je trouvais qu'elle était super sympa, et en plus c'est quelque chose que je sens comme quelque chose d'étrange et de magique, et j'ai trouvé donc que ça correspondait tout à fait au recueil de nouvelles Strange Magic, aux presses du Midi.
Et quel est le sens de ce titre, Strange Magic?
Alors, ben, c'est...
Presses du Midi, j'ai mal dit tout à l'heure.
Ouais. Ben écoutez, moi je crois que la meilleure manière pour définir ce titre, pour essayer de comprendre en fait pourquoi ce choix de titre anglais, déjà je trouvais que ça sonnait bien, Strange Magic, voilà. Alors, je vous lis la quatrième. Alors, une invasion venue d'ailleurs, une piscine habitée par d'étonnantes créatures, une malédiction nichée au bord de la route, les habitués d'un bar frappés par une curieuse maladie. Voici quelques-uns des thèmes de ces nouvelles étranges et magiques qui vous feront rire, mais surtout frémir. Alors voilà, ce sont des nouvelles policières, de science-fiction, aussi des petites tranches de vie de la vie de tous les jours, avec ce qu'elle a de plus, on va dire, négatif. Parce que moi, je suis pas tellement dans le comique troupier, si vous voulez. Je suis plutôt dans le polar et dans les choses un petit peu dures, quoi. Et donc, ces nouvelles, en fait, sont toutes issues de plus ou moins quand même de rêves. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté un petit peu onirique qui ressort, donc ce côté un petit peu étrange en fait. Et le côté magique, bon, il est apporté quand même par certains personnages de ces nouvelles, comme par exemple une borne kilométrique vivante.
Hein, et quand on croit au départ que c'est une dame avec une belle chevelure rousse.
C'est ça.
Et non, c'est une pierre, mais elle est vivante, ah oui, et elle peut faire mal.
Ah oui. Ben oui, c'est la fameuse malédiction des bandes kilométriques qui est connue, parce que je ne sais pas si vous savez, Odile, mais il paraît que 80% des accidents de la route se produisent à côté d'une bande kilométrique.
Ah. Voilà. Mais non, nous avons appris.
Vous pourrez lire pourquoi dans le recueil Strange Magic, justement.
Et Strange Magic, Strange c'est l'adjectif, et Magic ça veut dire ce qui est magique.
Voilà.
Et je dirais ce qui est fantastique. Et là, les nouvelles montrent bien ce qui est la spécificité du fantastique, c'est-à-dire que il surgit du quotidien. C'est pas le fantastique de la féerie des contes de fées il était une fois et on est tout de suite introduit dans un autre monde. Non, il y a le quotidien et tout d'un coup, le quotidien disparaît et on plonge dans l'horreur. Hein.
Ben c'est ça, c'est un peu la cafetière de Théophile Gautier, par exemple. Vous voyez, ce sont des nouvelles qui sont à la fois, on pourrait dire, issu d'une grande fatigue intellectuelle, on va dire, hein, et donc qui permet en fait d'imaginer des choses mais absolument impossibles. Je veux dire, bon, je peux pas raconter mes nouvelles.
Ah, il faut pas.
Non, je peux pas raconter mes nouvelles, mais quand vous voyez par exemple, je vous citais tout à l'heure Théophile Gautier, bon, quelqu'un qui va qui est reçu chez son hôte et qui voit les gens des tableaux arriver vers lui, commencer à danser, etc. On peut pas dire que ça soit des nouvelles tout à fait concrète, si je puis dire, dans le domaine du concret. Bon, Strange Magic, c'est un peu tout ça. C'est ce genre de nouvelles un peu fantastiques, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, des nouvelles fantastiques qui se produisent dans un environnement quotidien, en fait. Alors, par exemple, je vous ai cité la bande kilométrique tout à l'heure, je peux vous citer des habitants dans la piscine. Alors, le thème des habitants dans la piscine, eh bien, le thème est très simple. C'est un jeune couple d'artistes qui achète une propriété vers Londres, et cette fameuse propriété a une autre propriété qui jouxte celle-ci, avec une piscine magnifique, mais qui n'est habitée que pendant les vacances d'été. Pas la piscine, hein, la propriété, bien évidemment. Donc, et il se fait que ce jeune couple va être confronté à d'étranges phénomènes qui se produisent dans cette piscine à côté de chez eux. Voilà. Alors bon, bah, le cadre est idyllique, c'est la campagne, les petits oiseaux, le soleil, l'été, etc. Mais finalement, bah, non, il y a quelque chose de catastrophique à côté, cette fameuse piscine et les habitants à l'intérieur.
Et j'ai souligné ce caractère fantastique. Et il y a aussi, en effet, dans ces nouvelles, la structure de la nouvelle, on a toujours un étonnement à la fin. Alors, quelque chose se fait et puis se défait. Et cette structure style nouvelle, on la retrouve aussi d'ailleurs dans vos romans, parce que bon, Fred Belin n'est pas qu'un auteur de nouvelles, il est l'auteur de romans, et même dans ses romans, il aime bien que ce soit roman policier, que ce soit policier à la Simenon ou policier série noire, quelquefois les deux à la fois, comme on l'a vu dans notre dernier entretien. Eh bien, il y a cet étonnement, cette découverte d'une réalité autre que celle que le lecteur s'était figurée en lisant, surtout le lecteur bon public, comme moi, je marche, et je vous recommande de faire comme moi, et vous aurez beaucoup de plaisir à lire Fred Belin. Donc, est-ce que, quand je dis que votre œuvre, bien que là il s'agisse de nouvelles, elle est diverse, mais en même temps, ce qui est votre style à vous, c'est de savoir manier à la fois ce que j'appelle, en bon professeur, la peinture des mœurs, comme on disait autrefois, c'est-à-dire le style un peu Simenon, et puis la série noire, et puis aussi, donc, et c'est la dimension dominante dans ce recueil-là, le fantastique.
Oui, la dominante de ce recueil, effectivement, c'est le fantastique, tout simplement parce que, je vous l'avais dit dans un entretien précédent, j'aime beaucoup les œuvres fantastiques. On a cité Théophile Gautier, mais j'aime bien Maupassant, les gens comme ça, pour les plus classiques, mais je suis un fan aussi de Stephen King, hein, je veux dire, j'aime bien, comme tout le monde, hein, je suis assez bon public là-dessus, quoi. Donc, mais bon, je trouve que lui-même aime bien les auteurs français, hein, que j'ai cités, donc tout se retrouve finalement, il y a une espèce d'école du fantastique qui est née dans les années, je sais pas, 1800 et quelques, et puis finalement, tous les auteurs de fantastique traînent un peu tous finalement les mêmes trames, hein. C'est-à-dire en fait ce sont plus des délires de l'esprit que de la littérature entre guillemets intellectuelle, on va dire, hein. Mais malgré tout, si vous voulez,
c'est un genre littéraire
parce que justement c'est pas un genre mineur, parce que justement vous le disiez tout à l'heure, dépeindre la société, bah, c'est quand même on peut pas le faire autrement que par la littérature, même si c'est de la science-fiction, même si c'est du polar. Je veux dire, il faut arrêter de penser que le roman policier où le roman de science-fiction est un roman bas de gamme. C'est pas vrai. Moi, j'ai beaucoup plus de plaisir à lire de bons romans policiers, bien écrits, bien travaillés au niveau du style, que de lire la plupart de ce qui sort à l'heure actuelle chez mon libraire. Hein. Excusez-moi, mais bon. Donc, si vous voulez, le style SF, pour moi, c'est un style d'expression comme le style policier, mais il faut vous dire aussi que j'écris des romans qualifiés de blancs, et notamment lorsque j'écris pour la télévision, par exemple.
Et on voit, vous avez cité Stephen King, on voit l'influence, hein, de l'Angleterre, puisque deux des nouvelles, hein, se passent en Angleterre, deux des nouvelles, et avec autour de l'immobilier, puis c'est à la mode, hein, on parle beaucoup à l'heure actuelle de ces difficultés, c'est du fantastique, mais ça tombe dans les préoccupations qu'on a.
Mais oui, mais parce que ces préoccupations-là, je les ai eues moi-même. C'est-à-dire que si je vous prends une comtesse en viager, par exemple, qui est en fait l'histoire d'un couple qui va se retrouver, d'un jeune couple d'ailleurs, qui va se retrouver. Vous avez vu, c'est souvent des jeunes couples aussi, hein.
Oui.
Donc qui va se retrouver donc propriétaire en viager d'une maison, tout simplement parce que l'appartement qu'ils occupaient avant. Ben, partait en bibrine, quoi, tout se cassait, le rideau. Alors effectivement, il était super bien situé, il avait une vue magnifique, mais une vue magnifique quand votre rideau est coincé, c'est pas terrible, quoi, vous voyez. Donc forcément, ce couple a cherché donc à acheter, n'ayant pas des moyens suffisants, ils ont décidé de le laisser tenter par le viager. Mais comme vous le savez très bien, dans la SF et dans le policier, le viager, c'est toujours quelque chose qui finit mal, quoi, comme dans la vie souvent, hein, d'ailleurs.
Donc voilà, et j'ai une question qui est une question littéraire, hein. Comment dans l'écriture, parce que moi c'est l'acte d'écriture qui m'intéresse, est-ce que vous travaillez différemment vos œuvres en mettant l'accent sur l'un ou l'autre aspect du style, donc fantastique, peinture de mœurs ou série noire? Comment ça marche un peu dans votre tête et sur le clavier, dans vos doigts?
Alors, c'est un postulat de base, en fait. C'est-à-dire que je sais à l'avance ce que je vais écrire. Disons que je ne sais pas exactement, évidemment, toutes les phrases qui vont être écrites, mais je n'écris jamais rien sans avoir tout, c'est-à-dire le début, le milieu, la fin. Voilà. Ah. Je préfère rester des mois sans écrire, voyez, et puis écrire finalement quand j'ai une histoire qui se tient, plutôt que d'écrire en attendant que ce que j'ai écrit me donne des idées. Non, moi j'aime bien quand même les choses construites, donc j'aime bien avoir déjà toute l'histoire auparavant. Donc c'est pour ça que auparavant je sais si je vais travailler plutôt sur de la SF, plutôt sur de la peinture de mœurs, plutôt sur du polar dur, etc. Donc en fait, si vous voulez, il faut se mettre dans le moule en fait. Je pense que tout le monde, moi je suis capable aussi d'écrire des choses tout à fait banales, entre guillemets, comme des histoires de société classique, si on peut dire, d'histoires d'amants, ce qu'on peut trouver, quoi, des histoires un peu bateaux, de vacances, de machin. Je suis capable d'écrire ça, mais il suffit en fait que je me mette dans le moule. Vous voyez,
la réponse, c'est postulat de base.
Ah bah oui, c'est ça, voilà. C'est postulat de base. Ouais, ouais.
Alors, j'ai remarqué quelque chose dans le dernier recueil. Je vais vous poser une question. Et alors, il y a chez vos personnages une certaine misogynie. Quand, moi, je suis sensible aux personnages de femmes, et qu'est-ce que je remarque? Les personnages, sauf, j'avoue, les jeunes couples, c'est pas le cas. Mais le personnage dit, quand il parle d'une femme, qu'il a absolument besoin d'elle, premièrement pour la sécurité, pour faire la cuisine, pour s'occuper du ménage, et deuxièmement ben pour des raisons de service sexuel. Voilà. Alors il dit qu'il a besoin de la femme dont il parle, mais en même temps, il en a marre, oh là là, c'est un vrai sac de viande, et j'en ai marre, mes copains se demandent ce que je fais avec elle, mais moi, je reste quand même, enfin bref, c'est une sacrée misogynie là-dedans qui ressort.
Ben oui, mais c'est tout à fait la misogynie que je déteste, quoi, au plus profond de moi-même. Et en fait, on croise beaucoup de gens comme le héros de cette nouvelle, et on se dit toujours, mais c'est pas possible qu'il y ait des types comme ça qui existent, quoi, qui considèrent que la femme soit un objet de ménage, d'assouvissement de la sexualité, et puis point, quoi, voilà. Et pourtant, si, je suis désolé, dans la vie de tous les jours, allez dans un bar à côté et vous verrez que la plupart du temps, les types sont comme ça, quoi. Alors bon, moi, personnellement, je suis pas du tout misogyne, je serais plutôt même inverse. Vous voyez, mais écoutez, justement, j'aime bien justement me mettre dans la peau en fait d'un personnage que je ne suis pas, en fait. Et j'essaie d'imaginer ce que je penserais si j'étais vraiment à sa place, quoi. Donc là, j'essaie dans cette nouvelle en particulier, j'essaie de m'imaginer en fait comment je réagirais moi-même si j'étais vraiment misogyne au plus haut degré, quoi. Parce que là, franchement, il dépasse un peu les bornes, celui-là, quand même. Vous trouvez pas?
Oui. Et puis alors, il faut pas déflorer le sujet, mais il y a une violence terrible, hein, parce qu'il y a beaucoup de meurtres. Attention aux personnes, pour les personnes sensibles, la strange magic, c'est assez terrible. Et en même temps, il y a des visions qui sont des visions du quotidien. Moi, par exemple, j'ai adoré la nouvelle Les Bons Amis à cause de cette ambiance de bistrot, de gens un peu poivrots, hein, qui boivent un peu tôt. Il y en a un qui tient pas l'alcool, il en boit peut-être pas beaucoup, mais ça suffit, comme on dit, pour le mettre sur le dos. Et puis, ils sont de bons amis. Il leur arrive une chose terrible, mais que je ne dirai pas.
Une chose fantastique, faut bien
une
dire.
Une chose fantastique.
Hein, ouais. Alors, vous voyez, c'est justement ce côté fantastique de la nouvelle, au sens... alors ça, c'est, j'allais dire au sens non fantastique, c'est un petit peu... équivoque, mais non, si vous voulez, là, il arrive une chose tout à fait banale, finalement, qui peut arriver tous les jours dans n'importe quel bar de Marseille, de Paris, de n'importe où, si vous voulez. Et finalement, cette chose ce petit problème qui arrive, eh ben, ça y est, ça fait basculer toute cette séquence de poivrade générale, en fait, en une séance de SF, quoi.
Oui.
Hein, c'est vrai.
Oui. Ah. Voilà, on a le saut, hein, que l'on fait. C'est propre, le propre de la littérature fantastique. Un peu de musique pour souligner ce fantastique. Et puis on reprendra l'entretien.
T'es écrivain? Alors écris. T'es con? Alors, cogne. T'es amoureux, alors aime. T'es musicien, alors t'es chanteur, alors. Bon à rien. Bon alors, t'es écrivain. Alors, bois. T'es chanteur. Alors. Alors t'es amoureux, alors meurs. T'es con ou alors t'es musicien. Alors là, t'es ma femme, alors flambe. T'es écrivain, alors chante. Alors t'es bon, t'es heureux, alors t'es content, alors t'es con. T'es amoureux, alors mon amour, t'es Isabelle Huppert, alors je me trompe. T'es chanteur, alors la 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 la.
Galère, toujours avec Fred Belin, auteur de Strange Magic.
Voilà, on vient d'écouter Fred Poulet, le dernier album de Fred Poulet qui s'appelle Hollywood Baby. Et Fred Poulet, c'est un artiste que j'adore. Et bon, moi je l'ai connu parce qu'en fait, j'ai écouté ses musiques sur un téléfilm. J'ai trouvé génial et donc j'ai acheté tous ses albums. Je recommande vraiment Fred Poulet à tout le monde.
Merci. Et revenons, parce que c'est vous qu'on t'a recommandé d'abord aujourd'hui. Revenons à ces thèmes, et j'ai beaucoup aimé, pour ma part, la dernière nouvelle. Donc, à ceux qui sont très flemmards, vous pouvez commencer le recueil par la dernière nouvelle. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est aller jusqu'au bout quand on a commencé, parce que on ne s'en repent pas. Alors, un mot sur ce qu'on a entendu. Là, vous avez, je vous ai interrompu pour l'intermède musical, mais vous aviez quelque chose à dire sur votre style.
Certes, mais je ne m'en souviens plus.
Donc, ouais. On va tout de suite passer. Oui. Laissons parler le style, c'est inutile d'en parler.
Je peux vous lire un extrait, si vous voulez.
Oui. Voilà.
Donc, je vais vous lire un extrait de Bon anniversaire, chérie.
Voilà.
Pas de Bon anniversaire, chérie, excusez-moi, d'une auto de rêve.
Une auto de rêve.
Voilà. Un cri. Il était grave et chaud. Il a rompu la quiétude du salon, où seule une bûche crépitante avivait la lumière douce et tamisée d'une fin de soirée d'automne au bord de la mer. D'une lune qui tape sur des carreaux souillés par les embruns, des reflets léchant la verrerie du salon comme un kaléidoscope orangé, une grande roue d'illumination. Il a accroché la gorge, puis s'est diffusé le long des murs d'une suite de vagues accordées et a enveloppé l'atmosphère dans une ouate de plaintes. Il a fendillé l'argile des tuiles pour résonner sur tous les meubles, vibrant, décollant la poussière d'une vie sans problème. Il a tournoyé des heures, écorché les tympans. Puis il s'est tu dans un tourbillon par-dessous les lits, mangé par le vide, le silence. La bûche a craqué, éclaboussant la cheminée d'un bleu sauvage et donnant à la pièce un ton de réalité comme un néon froid et papillotant. Alors Fabien s'est agenouillé sur le tapis de la table basse, les mains collées au visage, et il a sangloté « Je n'en peux plus, je crois que je craque ». Et il a craqué. D'abord, il a frappé sa poitrine jusqu'à suffocation, puis, lorsque la douleur lui a décollé les poumons, il s'est arrêté. le temps de reprendre son souffle. Ensuite, il s'est mordu les lèvres au sang, vociférant des injures qui sifflaient sur l'émail de ses dents comme autant de flèches, avalant une boule de haine entre deux sanglots, récupérant tant bien que mal. Vivre. Tout ce qui eut le malheur de paraître à portée de main se retrouva bientôt détruit aux quatre coins de la pièce. Fabien était inconsolable. Tous ses gestes lui paraissaient exagérés et faux, parsemés de tremblements d'ivrogne, les veines rouges et gonflées de vin. Il ne se supportait plus dans cet état depuis bien longtemps, mais ce soir, il fallait tout accepter. Ce soir, il souffrait. Alors il a vidé un dernier verre, abandonnant sur la table le cadavre d'une bouteille de Bordeaux, et il s'est laissé avaler par le canapé trop mou. Il a battu des jambes pour se redresser, mais son ventre était flasque et sans vie depuis des années de cantina. Il gesticula ainsi quelques instants, puis, renonçant, prépara sa nuit, prisonnier des coussins en feutre qui dégageaient un mélange de poussière et d'humidité. Enfermé dans ses souvenirs, Sophie, la femme de sa vie, Sophie était partie.
Et voilà. Désespoir, un peu de musique, une virgule musicale avant de passer à la seconde lecture, si tu veux bien, David. Toujours avec Fred Villain, bon anniversaire, chérie, lecture.
Putain, qu'est-ce que tu fous ? Je demandais ça par habitude, avec une odeur d'œuf pourri comme haleine, parce que c'était son anniversaire et ça faisait bien 5 ou 6 heures que je buvais des coups pour fêter l'événement. Elle ne m'a même pas répondu. Elle se tenait une main contre la porte du garage et l'autre posée sur le pilier en béton. Un peu chaude. Sa face de vigneronne au rabais et sa bouche en cul de poule luisaient dans les phares. Elle me dégoûtait. Au fond de moi, une petite voix m'interpellait. « Bordel, hein, c'est pas possible, Fernand, que tu aies épousé une femme qui ressemble à rien. J'avais honte. » Comme réponse, elle m'a envoyé un regard où j'ai lu autant de méchanceté que de bêtises. « Je suis bourré !» C'était ça qu'il voulait dire. « J'ai trop picolé. Tu le sais bien, je tiens pas l'alcool. Un verre de champagne, il suit sur le dos. » Et rien que le fait d'appeler sa coupe un verre, ça réveillait en moi tous mes instincts. « C'est pas un verre que ça s'appelle, pauvre conne. C'est une coupe. Si tu veux te donner des airs, faudrait voir apprendre le français, ça te ferait pas de mal. » C'est ce que j'aurais aimé lui cracher à la figure. Mais en ce qui me concerne, j'étais trop fatigué pour ça. Ma mère m'avait pourtant bien prévenu. Cette fille, tu la mets sur le dos et la seule réaction qu'elle a, c'est d'écarter les roseaux. On dirait une tortue à remuer les pattes. Sauf que cette petite traînée, c'est pas pour se redresser qu'elle les tord, ces guiboles. Tout ce qu'elle cherche, c'est se faire engrosser, pondre et rester entre quatre murs à attendre son maître comme une chatte opérée. Ça te mènera nulle part des donzelles de son gabarit. Croisant mon expérience, tu mérites mieux que ça. C'est pas quelqu'un pour toi. D'ailleurs, elle travaille pendant que tu chômes, mais ça lui donne pas tous les droits. Et de l'expérience, ça, ma mère, elle en avait. La preuve, elle m'avait eu moi, et seulement moi. Et je voudrais pas aller trop vite en besogne, mais faudrait pas chercher trop loin pour en conclure que s'il y avait une salope dans le coin, c'était sûrement pas ma mère qui avait baisé qu'une seule fois et la bonne. De là, conclure que j'étais l'enfant du bon Dieu, il y avait pas loin.
C'est dur, hein? C'est vraiment dur. Mais c'est pas si dur que les conversations des copains de bistrot. C'est un bistrot de chasseurs qui, quand ils apprennent qu'elle veut aller dans un restaurant chinois pour son anniversaire, dit comment aller engraisser les étrangers qui viennent
ben
de
voilà,
notre part. Parce que... Alors on voit les deux veines là.
Hein? Ben oui, parce que remarquez bien que celui qui est misogyne en général est raciste au dernier degré aussi, quoi. C'est deux attitudes qui se mêlent bien, quoi. Si je puis dire.
Hein. Ah, et oui, oui. Donc, et minorité.
C'est vrai que bon, moi, c'est vrai que j'aime bien épingler tout ça parce que bon, moi, je suis pas du tout ni raciste ni misogyne ni quoi que ce soit, bien au contraire. Alors forcément, si je peux épingler tous ces gens-là et puis si on me publie, ben tant mieux. Voilà.
Tant mieux donc pour les bonnes luttes. Mais les messieurs qui disent très fort, je suis pas du tout misogyne, et je dois dire que
j'ai non mais je me soigne.
On verra.
Je me soigne, je le suis, mais je me soigne.
On verra avec la prochaine publication. Est-ce que vous avez des projets? On va terminer là-dessus.
Des projets, oui, beaucoup de projets, des projets de films, de téléfilms, de romans aussi. Mais bon, pour l'instant, je peux pas trop en parler. Je vous avais dit la dernière fois que ça serait l'histoire d'un médecin, très certainement. Ben, je crois que oui, effectivement, ça sera. De toute façon, j'ai deux romans dans la tête en ce moment. C'est l'histoire d'un médecin, d'accord, à qui il arrive quelque chose, mais toujours des histoires un petit peu qui partent un petit peu d'une manière un peu banale. Hein. Il se fait plaquer, donc ça va pas du tout. Bon, et un médecin qui est en pleine dépression. Bon, c'est pas le meilleur des médecins. Faut pas tomber dessus, en gros, quoi. Voilà. Ah, et puis donc.
Et à l'époque où on se préoccupe tellement de la santé, de la médecine générale, voilà qui tombe.
Voilà,
bien.
Par exemple. Donc ça, c'est un des thèmes que je suis en train d'écrire. Et un autre thème aussi qui est celui des maisons d'accueil pour personnes âgées, où là, on rencontre de tout et on pense toujours que les les personnes âgées sont des gens vraiment super qui ont eu des vies géniales et qui ont été toujours gentils avec tout le monde. Et en fait, ben, c'est des gens comme nous, hein, je veux dire, avec leurs imperfections. Et puis, on peut rencontrer aussi les parfaits salauds, même à 80 ans, quoi.
Voilà. Alors, il y a eu Mortelle Campagne, il y aura peut-être Mortelle Maison de Retraite.
Voilà, de toute façon, il y aura Mortelle quelque chose, c'est clair. Hein. Mais bon, pour l'instant, on parlait de Strange Magic aux presses du midi quand même. Hein.
Alors, oui, ah, je vous recommande de l'acheter, vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies.
C'est ça, et surtout sur Internet. Et je vous conseille de taper fredbelin.com sur votre ordinateur, et vous tomberez sur une page en construction où vous pourrez donc retrouver les liens pour vous procurer les livres. Et bon, il y a un nouveau site qui va venir avec des extraits téléchargeables pour PC, Palm, etc., avec des extraits lus. Bref, ça va s'arranger. Bon, fredbelin.com.
Et merci à Fred, et au revoir à nos auditeurs et auditrices.